Bienvenue tout le monde dans ce nouvel épisode du podcast Tout est dit, votre podcast dédié aux jeux vidéo. Sans plus attendre, permettez-moi d'introduire les deux autres hôtes de ce podcast. J'ai nommé David.
Salut Valérien.
Et Hector.
Salut Valérien, salut David.
Salut Hector.
Salut vous deux. Alors, le programme du jour, c'est un petit on s'en fout pas, qui sera en fait pas vraiment
nouvelle
on
version,
s'en fout voilà, pas, mais nouvelle version, tout change voilà. Tout le temps. On aura un petit jeu du moment, et puis on aura une petite section encore sur Final Fantasy VII Rebirth, parce qu'on va l'avoir toute l'année, celle-là. Et donc voilà, et je pense que c'est plus ou moins tout. Et alors on verra bien s'il y a des gens qui... Enfin, si David veut nous faire son hors-jeu cinéma, il sera le bienvenu en fin d'épisode pour nous faire plaisir. Maintenant, t'as la pression, David, prépare-toi.
Tout ce que j'allais, je suis même pas sûr d'avoir été au cinéma depuis la dernière fois, on va trouver.
Ah ouais, voilà, bah, c'est pas grave. Non, t'es pas obligé de trouver, il y aura pas de hors-jeu, il y aura pas de recommandation. Autre que vidéoludique, c'est comme ça. Hector.
Yes.
Hector, c'est toi le maître de la section on s'en fout, on s'en fout pas, et tu vas pouvoir nous expliquer pourquoi aujourd'hui on ne va pas faire le on s'en fout pas.
Génial, merci beaucoup Valérie, effectivement. Pourquoi on ne fait pas le on s'en fout pas de façon classique? C'est parce qu'il n'y avait pas de gros points en fait, et donc c'était un peu inutile d'essayer de trouver une grosse news pour qu'on essaye de parler de quelque chose dont on allait de toute façon probablement s'en foutre. Donc ce que j'ai décidé, c'est de prendre toutes les news qu'on avait un peu sélectionnées entre nous en mettant dans le Discord commun et de faire ce que les Anglais appellent un rapid fire, donc un feu rapide. Donc, je vais vous lancer le titre de la news et vous me dites ce que vous pensez. Tu vois, on en discute si jamais vous voulez... aller plus loin, et si vous pensez à d'autres choses qui sont associées ou qui ne sont pas du tout associées, ça ne me dérange pas du tout, donc on verra ce que ça donne. Premier point, vous êtes prêts?
Oui. Mmh. Oui.
Il y a vraiment, en gros, il n'y a pas de
règle. Parce que ça va être rapide, hein, c'est
voilà.
Ça.
Et l'idée,
il faut qu'on soit rapide.
C'est... Okay. On peut être rapide, mais vous êtes libre. Donc si vous voulez prendre 45 minutes pour parler de...
Non,
pas,
ça va.
Premier point, c'est pas grave, mais c'est... a priori, ce n'était pas l'idée. Mais faites à votre aise. Donc le premier point... c'est que Embracer, le Embracer Group, a vendu Gearbox. Donc Gearbox, c'était un peu un des gros trucs qu'ils avaient. Là, ils l'ont vendu à Take-Two pour 460 millions. Qu'est-ce qu'avait Gearbox? C'était surtout Borderlands, qui est quand même une grosse licence. Donc Embracer continue à perdre peu à peu tous les studios qui faisaient sa renommée. Je pense que maintenant, ils ont quoi? Le truc de Tomb Raider encore et pas grand-chose d'autre.
Est-ce que ça vous inspire
quelque chose? Est-ce que ça vous inspire quelque chose?
Est-ce que c'est vraiment bien? Ça nous inspire quoi? Ça nous inspire quand même une sorte de gestion assez douteuse de ce groupe, mais à part ça, ça ne m'inspire rien
acheté,
de bon.
Surtout qu'ils avaient acheté genre Gearbox pour genre 1,5 milliard d'euros, je crois, ou quelque chose comme ça à l'époque.
C'est pas possible. Donc, ouais. Okay,
ouais. C'est une belle perte d'argent.
On avait aussi dans une news, non, que Valérie a partagé, que c'était la fin de la restructuration. En tout cas, c'était comme ça qu'ils l'annonçaient.
C'est ce qu'ils ont dit, oui.
Et que, bon,
ça, c'est beau.
Oui, voilà. Et donc, est-ce que ça veut vraiment dire qu'à partir de maintenant, ils vont se concentrer avec le noyau qu'ils ont gardé? À voir. Difficile à croire quand même. Et donc, on verra. Donc, ça, c'était le premier point. Quelque chose d'autre à rajouter? Non.
Non.
Deuxième point, c'est un peu lié parce que c'est un peu le même... truc, Sega a vendu Relic, c'est apparemment ce qu'ils faisaient Company of Heroes, je pense que j'ai pas été vérifié, mais c'était l'image qui était montrée, donc j'en ai déduit que c'était eux, et 240 personnes ont été licenciées, je pense que c'est en Grande-Bretagne qu'ils étaient eux. C'était un moment, Sega avait acheté beaucoup de studios pour faire des jeux de stratégie, hein, et ici on voit vraiment qu'à un moment tout le monde a voulu s'étendre et ils commencent maintenant à réduire vers les trucs qui marchent. Je ne sais pas si c'est une bonne technique, mais c'est un peu triste parce qu'on est en train de vivre le moment où on jette tous les fruits pourris de la maison. Apparemment. Et même quand c'était des bons trucs. Hein. Vas-y Valérie, on te fait.
Non, c'est, donc, l'année passée est sortie Company of Heroes 3 et sa réception n'a pas été incroyable.
Non.
Est-ce une conséquence
probablement, hein. C'est vrai qu'ils
des résultats de ce jeu-là?
C'est vrai. Ils ont eu du retard. Ça s'est probablement mal vendu et critiquement, c'était pas non plus un... Je l'avais dans ma fantasy.
Oui, tout à fait.
C'était pas non plus un gros succès. Et d'ailleurs, maintenant, il y a moyen, je pense, de le tester dans le PlayStation Plus Et il me donne même plus envie, quand à un moment c'était un des trucs que je voulais vraiment découvrir. Bon, pauvre. David, un point, quelque chose à rajouter là-dessus ?
Non, pas du tout.
Génial, mais il y a encore plus de licenciements. Donc là, c'est chez Ubisoft, encore 45 personnes. Et de ce que j'ai juste rapidement regardé, mais c'était l'équipe éditoriale et des gens dans Asie-Pacifique. Je pense que c'est lié à ceux qui ont fait Skull and Bones. Donc je pense aussi que c'est lié au fait qu'ils devaient finir le jeu. Ils se séparent encore une fois de ce qui est inutile. Je mets aussi dans la partie Ubisoft, tant qu'on y est aussi, qu'ils ont annoncé la date de sortie de Star Wars, non ? Et ça, c'est pour le 30 août, ce qui fait croire que le Assassin's Creed devrait quand même arriver en novembre, parce que sinon, ils mettraient le Star Wars en novembre. Ça, c'est ma déduction, mais ce n'est pas confirmé encore. Quelque chose sur ce point-là ? Donc, pas un peu Ubisoft, vous avez...
Curieux de voir. En tout cas, c'est rapide comme sortie, vu qu'a priori, c'est la même équipe qui a fait Avatar. Ouais. J'ai la même équipe. C'est non, c'est le même développeur, mais probablement une autre équipe que celui qui a fait Avatar. Du coup, c'est rapide, mais curieux de voir. En soi, ça pourrait être sympa.
C'est vrai que c'est un peu le jeu qui devrait permettre à cette équipe de devenir une des bonnes équipes, non, d'Ubisoft, entre guillemets, parce qu'ils ont fait des Division. L'Avatar, c'était pas un gros succès, mais ici, ça, c'est un peu le jeu qui met en avant. Curieux. Et c'est plutôt... Moi, je pensais qu'il allait être reporté, honnêtement, à l'année prochaine, mais donc pas du tout. Donc, il aurait peut-être même dû probablement sortir dans ces aussi, non, en mai, j'imagine que c'était la première date de...
Parce que, c'est bien possible.
Parce qu'à un moment, ils ont dit qu'il est retardé. Je pensais vraiment que ça allait passer à l'année prochaine. Mais bon, voilà, on verra. Est-ce que vous attendez quelque chose de ce jeu-là ? Il a été présenté aussi. Je ne sais pas si vous avez le trailer. Il n'était pas terrible, mais après, c'était un trailer d'histoire. Est-ce que vous l'attendez, vous ? 30 août, c'est une bonne date, entre guillemets, parce qu'il y a peu de jeux en général. Mais... Silence veut dire non.
J'espère que un peu quand même, dans le sens où moi les Jedi Fallen Order et trucs, ça m'a absolument pas, tu vois, ça n'a pas fonctionné sur moi. Du coup, j'aimerais bien avoir un jeu Star Wars qui soit chouette et un peu plus ça a l'air plus de partir, on va dire, dans le côté Uncharted qu'autre.
Oui, c'est vrai que c'est.
Si je dois faire des approximations. Donc, je trouve que ça pourrait être chouette s'il est bien fait. Je crois que ça pourrait être le genre de jeu auquel je pourrais donner un laisser-passer sur ses faiblesses pour m'amuser un peu dans cet univers-là.
Génial, génial. Je passe au point suivant. Là, Valérian, corrige-moi si je fais une erreur. Moi, j'ai noté Monster Hunter Wild serait un vrai monde ouvert, donc elle devrait sortir en Q1 2025. Moi, ça m'a fait penser à la Switch 2, parce que ce jeu m'a toujours fait penser à la Switch. Est-ce que ça vous fait penser à la même chose ? Et j'étais pas sûr du titre maintenant, Valérian, mais donc c'est le bon titre ? Oui, c'est le bon.
On parle du nouveau Monster Hunter. Ok, oui. Et ça voudrait dire que la Switch 2 va être un monstre, si ça sort dessus, parce que, a priori, c'est le... Voilà, c'est le gros Monster Hunter, quoi. C'est pas comme le Rise qui est sorti...
Sur Switch.
Sur Switch, ouais, c'est ça. Qui était, entre guillemets, un petit Monster Hunter. Si tu dis que ça sort sur Switch 2, je suis prêt... Je veux bien te croire.
Mais t'y crois pas.
Mais donc, ça veut dire que techniquement parlant, la Switch 2, ça va être costaud, quoi.
Intéressant, ça, intéressant.
Ça va être comme un Steam Deck ou un truc comme ça, je sais pas.
C'est vrai, c'est vrai. C'est un bon point. Là, tu ouvres une porte qu'on va vite refermer de savoir qu'est-ce que pourrait être la Switch 2 dont on peut à chaque fois. David, t'as quelque chose à rajouter sur le point ?
Non, je suis curieux de comment ils vont. Tu vois, le côté vrai monde ouvert, je me demande comment tu l'intègres. Comme j'ai pas joué à Monster Hunter Worlds, pour le coup, mais que j'ai joué à Rise, et Rise, c'est des petites zones bien séparées. Truc, je me demande si le monde est ouvert, mais que seuls les monstres que tu vas chasser sont présents. Tu vois, c'est un peu des questions en tête, mais sans vraie connaissance de la série non plus.
Excitant.
Voilà, okay.
C'est excitant.
Bien ça, parce que Valérie, on sait qu'il va y jouer. Toi, David, à voir encore ou...
Pas sûr, okay, ouais, pas sûr. À voir, exact.
Intéressant tout ça. Sinon, il y a eu les chiffres d'affaires de CD Projekt Red, si je ne me trompe pas, mais l'intitulé qu'on a gardé, nous, c'était que Cyberpunk a engendré 752 millions de dollars, je pense. Ils ont annoncé ça en montant polonais, mais on convertit ça en dollars. Et donc, c'est beaucoup, je pense, non ? Je pense que c'est positif, qu'on sait à quel point c'était difficile au début. Ça montre quand même que Je sais pas ce que ça montre. Ben voilà. Ils ont quand même travaillé. Tu vois, je ne sais pas qu'ils ont juste laissé le jeu comme ça.
Ouais. Donc, ça donne envie quand même pour le DLC.
Ah, mais c'est vrai, c'est vrai. Tout c'est vrai. Fait. Ça, c'est un jeu qu'on n'a pas pris en compte dans la discussion de notre jeu du mois. Mais c'est, là, je m'égare complètement. C'était,
oui,
c'était une bonne, ça aurait été une bonne proposition. Mais voilà, voilà. Maintenant, apparemment, il y a un très peu de développeurs qui s'occupent encore de la maintenance du jeu, donc ils fonctionnent bien et ils sont très contents, je pense. Sinon, un point que moi j'avais noté parce que ça m'avait légèrement excité à l'époque, c'était le truc qui m'excitait le plus, mais je pense que ça veut rien dire. Apparemment, il y aurait un gros événement Sony en mai, mais ça, c'est la source, c'est Jeff Grubb qui, une fois sur deux, rate son truc. Donc, est-ce qu'il y aura vraiment un truc en mai? Difficile à dire. Moi, j'y crois pas trop, honnêtement. Mais bon, ben voilà, mais je l'ai dit pour si jamais vous y croyez, comme on sait, je pense qu'on en parle à chaque fois, mais que Sony ne devrait pas avoir de grosses licences connues à montrer. Je ne sais pas comment le mentionner parce que la phrase était ambiguë. C'est en gros pas de suite ou pas de... Je ne sais plus. Je ne sais plus comment
ça. Et puis, ouais. Vas-y, en mai, c'est... Enfin, je ne sais pas. C'est juste avant le Summer Game
oui,
Fest.
Exact, ouais.
Je m'attendrais plutôt à voir un truc
plus en juin, mais... à la période classique, effectivement. Effectivement. Mm-hmm. Il disait
ouais,
aussi...
Ouais, pareil.
Ouais, exact. Oh, vas-y, David, vas-y, vas-y.
Non, j'abondais dans le même sens que Valérie.
Quand on regardait la news, il faisait le lien entre il faut annoncer Silent Hill 2, tu vois, parce qu'il sort apparemment cette année, tout semble indiquer que c'est, et que donc c'est là qu'il aurait cet événement-là. Je veux dire, c'est comme ça qu'arrive la discussion là-dessus.
Bah, voilà,
je pense que Silent Hill 2 ne nous intéresse plus, je crois, pour l'instant, en tout cas, il devra faire des efforts pour nous reprendre notre intérêt, mais voilà. Donc, ça, c'est. Sinon, un petit point là que j'ai quand même mis, c'était Atari a acheté les droits de Roller Coaster Tycoon 3 pour 7 millions d'euros à Frontier. Donc Frontier, c'est apparemment les développeurs, donc là je peux me tromper, mais je crois que c'est les développeurs de Roller Coaster Tycoon. Et Atari avait les droits pour presque tous les autres Roller Coaster Tycoon, sauf pour le 3. Je ne sais pas comment ça avait fonctionné, mais donc maintenant Atari a tout le truc Roller Coaster Tycoon chez eux. Frontier, lui, a développé Planet Coaster, qui est le bon Roller Coaster Tycoon maintenant, j'imagine, mais bon. Voilà, comme ça. Est-ce que vous, ça... Est-ce que vous jouez de temps en temps à Roller Coaster Tycoon? Moi, je l'ai téléchargé la démo, je pense, mais je n'ai pas joué. Mais...
Non, mais par contre, j'ai joué à Planet Zoo de Frontier. Et Planet Zoo, c'était quand même vraiment rigolo.
Nice.
Et Jurassic World aussi, parce qu'ils ont fait ça, hein, je pense.
Ah, mais ça, c'est intéressant. Mais c'est très...
Ouais,
c'est
je pense.
Et c'est très rigolo. Bref.
Ah, mais ça, c'est... Maintenant, tu m'as donné envie de jouer à Jurassic World... Mais c'est bien, on fait ce podcast aussi pour ça. Donc ça, c'est très, très bien. Point 8. Bon, la news qu'on avait, nous, dans notre liste, était que le fondateur du studio, le directeur créatif du premier jeu Hellblade, avait quitté le studio depuis des siècles. Mais la vraie news maintenant aussi, c'est que les previews de Hellblade 2 sont très positives, moi, j'irais. Je veux dire, c'est comme ça que je le ressens. Vous êtes d'accord avec vous? C'est intéressant, non? Ça donne envie... Ça va être bien, je pense. Vous, qu'est-ce que vous croyez de ce que vous avez un peu pu percevoir parmi les titres ou les trucs que vous avez vus ou les vidéos que vous avez vues?
C'est la hype Microsoft qui se met en marche.
Ouais, ça a l'air sympa, en tout cas.
Mm-hmm. Mais normalement, c'est là que c'est au niveau des previews que ça commence à rater, non, le truc Microsoft. Et donc
oui,
ici, c'est très bien. Je veux dire, ça, on ne s'y attendait pas.
Oui, non, pardon. Mais c'était pas ironique ou quoi que ce soit.
Okay.
C'est la hype Microsoft qui se met en marche.
Ah, bien, ça, bien.
Et... Ils ont promis quelque chose et ils ont l'air de tenir la promesse pour une fois.
Tout à fait.
Pas mal.
Tout à fait. Et donc, en fait, quand il disait que le directeur, dans une des news qu'il y avait qui parlait du fait que le directeur créatif était parti, donc parce que Hellblade 1 était un peu vraiment un projet un peu indé entre guillemets, avec du très très beau et qui ça donnait vraiment l'impression d'être un triple A dans les graphiques, mais dans l'idée, je veux dire, c'était quand même plus parler de la psychologie du personnage qui était, je sais plus quel est le bon mot, je viens schizophrène, je pense, donc c'était un projet, je veux dire, où l'écriture et la direction du jeu étaient vraiment très importantes. Ici, je pense que quand Microsoft a racheté le studio, ils ont fait, ça c'est ce qu'ils disaient, un truc beaucoup plus grand. Et donc, l'ampleur du jeu aussi a changé. Et donc, à voir ce que ça donne. Je pense que ça reste quand même un jeu plus narratif, quand même, qu'action de ce que j'ai lu. Un des trucs que j'avais entendu aussi, c'était qu'ils avaient fait beaucoup d'annonces pour dire que le jeu allait être court. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, court? Ça, c'est toujours difficile à
moins
dire.
Moins de 20 heures.
Moi, j'espère que c'est moins de 10 heures, honnêtement, mais on va voir.
Oui,
on va voir. On va voir. Mais maintenant, c'est vrai que malheureusement, les jeux. Malheureusement, heureusement, ça dépend de quel. Il y a 10 ans, on était content quand les jeux étaient très longs. Maintenant, on vieillit, on voudrait qu'ils soient tous finis en 45 minutes, ce serait l'idéal. Mais voilà, on va voir. Et ça donne envie, donc à tester celui-là. Est-ce que vous, David, toi, tu veux. Je ne sais pas si tu as pu parler encore, ou Valérian, je pense que ce n'est que moi.
Non,
moi, je
n'ai rien à dire.
Mais... Non, j'ai rien à dire non plus en soi, mais j'espère aussi qu'il ne sera pas trop long, mais...
Il te donne pas trop envie, je veux dire, parce qu'il était à la fin dans la liste des jeux qu'on discutait pour faire jeu du mois, mais ça va...
Pas vraiment, non, je trouve que c'est... Comment dire ? Honnêtement, étrangement, je trouve que c'est... C'est un jeu, et ça va paraître bizarre, mais je trouve que c'est un jeu où l'ambiance a l'air bizarre et déprimante, et j'ai... Ça me motive pas des masses à y jouer, entre guillemets. Et c'est vraiment plus une question d'ambiance qu'autre chose. Ça ne me parle pas quand je le regarde, et j'ai l'impression que ça me fatigue un peu d'avance d'y jouer, entre guillemets.
Je vois. Je peux comprendre aussi, c'est vrai que c'est un peu... C'est un univers qui a l'air assez lourd quand même, comme ça, non ? Mentalement, à supporter pendant 8 ou 20 heures, on ne sait pas. On espère 6, peut-être 20 heures, voilà, exact. Sinon, bonne nouvelle, normalement, parce que ça, c'est... Corrigez-moi, mais je pense que ça, c'est un truc infaillible. Donc, Hollow Knight Silksong a eu son rating, l'équivalent du PEGI ou de l'USRB, en Corée du Sud. Et ça, je crois que c'est vraiment un truc infaillible. Ça veut dire que le jeu sort bientôt, entre guillemets. Bientôt, c'est... Moi, je vise entre juin et septembre. Vous rigolez parce que vous êtes méchants.
Dirais septembre. Moi, mon pari serait septembre.
Septembre, c'est beau ça.
Valérian.
Vous êtes hautement
optimiste.
Efficace, c'est voilà. Bien. Ouais, moi, j'ose plus rien dire sur Hollow Knight Silksong. Wait and see. J'attends. Je veux le voir. Mais.
Rien à voir, là je vais vraiment partir dans une tangente qui je ne devrais pas, mais quand je mets dans Google Bard qui s'appelle Gemini, donne-moi le rating Open Critic de ce jeu, je veux dire ta prédiction, il me dit c'est très difficile de prédire à chaque fois, et maintenant je veux un chiffre exact et il ne me répond plus. Valérian, toi est-ce que tu as envie de me répondre une date quand même?
Ouais, donc vous dites septembre, enfin j'y crois pas trop, enfin... Il y a quoi en octobre ? Il n'y a rien qui sort en octobre ?
Non, pour l'instant, il n'y a rien.
Octobre-novembre.
Non, pour l'instant,
je verrais plutôt octobre-novembre.
Ok, mais c'est bien.
Plus tard.
C'est pas con qu'ils prennent la place du gros jeu de novembre quand même, parce que c'est un indé qui pourrait avoir effectivement ce type de signification.
D'aura.
Voilà, exact. Sinon, il y avait un événement, moi je ne savais même pas que ça existait, qui s'appelle le... Ça aussi, c'est un piège parce que le titre est en anglais, mais il y a un I, donc je vais dire triple I, mais je devrais dire donc triple I Initiative Showcase. Et il y a eu pour moi deux annonces qui étaient relativement surprenantes. Donc, on a eu le scoop avant via Insider Gaming, je pense, qui est donc les gens qui ont fait Dead Cells. Je pense que c'est l'équipe qui s'occupait de faire les DLC pour Dead Cells. Fait un nouveau Prince of Persia, donc il va s'appeler Prince of Persia Rogue, dont il y a eu des previews qui sont plutôt positives déjà, et dont là le Early Access sortirait en mai, donc ça c'est intéressant, chouette. Et Slay the Spire 2, donc ça c'est les deux trucs que moi je retiens.
Incroyable.
Voilà, et ça c'est quand même une grosse annonce. Par les mots, voilà, David commence, et après Valérian, moi je veux qu'il finisse ce point-là, parce qu'il a beaucoup...
Le Prince of Persia, ça c'est rigolo, je trouve, d'en avoir deux du même style, à peu près, dans le sens...
Curieux.
Tout le monde a l'air de dire que le Prince of Persia Rogue, c'est vraiment du Dead Cells, avec des trucs en plus, donc vu la réception qu'avait eu Dead Cells, j'imagine que ça annonce que c'est quand même un bon jeu dans le fond, donc c'est rigolo d'avoir à nouveau de Prince of Persia en 2D, alors que la série avait l'air un peu dans les limbes pendant si longtemps. Donc, non, curieux de voir. Le précédent, celui qui est sorti en janvier, me donne toujours envie, mais celui-ci avait l'air chouette, je trouvais. Et Slay the Spire 2, j'avais pas joué des masses au premier, donc ça, je vais laisser la main à Valérian pour...
Vas-y, Valérian, pour les deux. Hein, pour les deux.
Pour les deux. Le premier, why not, mais en vrai, j'ai honte, parce que j'ai jamais fait Dead Cells. Enfin, je l'ai déjà fait, mais j'ai jamais fini. Donc, faudrait un jour que je lui donne sa chance convenablement. Et après, pourquoi pas hein, un petit Prince of Persia. C'est l'année de Prince of Persia, c'est bien. Slade of Spire 2, ouais, donc c'était à la fois excitant. Pourquoi ? Parce que c'est quand même un jeu qui a maintenant. Qui a combien ? Qui a déjà quelques années. Hein.
2019, c'était j'allais dire. La version 1
non, ouais, je pensais de 2018. Mais ah, je, c'est ouais, présent, ça doit être. Ça doit être dans ces eaux-là. Hein. 2019, t'as raison. Ouais, janvier 2019, très bien.
Ah
t'as...
oui, c'est vrai, je incroyable. Me souviens.
Ouais. C'était dans le... Ouais. Et bref, c'est rigolo parce qu'à la fois, quand je vois l'annonce, ça m'excite. Et en même temps, quand je vois ce que j'en ai vu, bah, y a une refonte graphique, ça c'est clair. Il y a des nouveaux personnages, mais ça a l'air d'être plus ou moins le même jeu. Je ne sais pas si vous comprenez mm-hmm, ce oui, que tout je à veux fait. Dire. Mm-hmm. Et tout donc, mais bon, ils promettent quand même des nouvelles façons de jouer, etc. Donc, voilà, on va dire que là maintenant, c'est juste une question de confiance envers le développeur principal ici. Enfin, mm-hmm. pas, c'est le développeur principal, bref, la personne, j'ai oublié son nom, qui est le génie mm-hmm. derrière ouais, ce exact. Jeu-là.
Qui est quand même a eu un énorme impact, non ? C'est un peu le meilleur jeu de deck building, non ? Un peu Jairo en tout cas.
Oui, oui, bah, c'est celui qui...
C'est le canonique, entre guillemets.
Voilà, ouais. Parce qu'il est... En fait, le truc qu'il a de fort, c'est qu'il est extrêmement bien... pas calibré, mais... Enfin, le mot, c'est calibré, bon bref. Mais vous voyez ce que je veux
équilibré,
dire, c'est...
Équilibré, ouais, okay.
Bon, voilà, sais. Équilibré, voilà. L'équilibrage est vraiment parfait. Pas comme dans un Balatro, par exemple, qui est très très chouette, mais où il n'y a pas d'équilibrage du tout, quoi. Donc, okay. Voilà. Donc oui, quand même de l'excitation. Voilà, avoir ces fameuses nouvelles façons de jouer, parce que je pense que ça va être le point. Voilà, le point mmh, le point fait. De
le point clé
d'accroche
un peu
pour cela. Ouais.
Justifier le 2. Ça me fait un peu penser ce que tu dis, Valérie, parce que je n'avais pas regardé, à World of Goo 2, où j'ai l'impression que pour sortir World of Goo 2, ils ont attendu que le premier World of Goo soit suffisamment vieux pour refaire exactement le même jeu. Toi, j'y remets.
Ah oui, c'est
ça. Ici, à Slay the Spire 2, ce ne sera pas exactement la même chose, on est d'accord, mais voilà, mais ça m'a fait un tout petit peu penser à ça. Mm-hmm. Sinon,
point Early Access ouais. 2025, by the way.
Ah oui, mais c'est pas mal. Hein.
Je ne sais plus ça... si tu l'avais dit.
Non, je n'ai pas dit. C'est vrai que je n'ai pas dit. Et c'est ah bien bah. Que tu rajoutes l'information parce que c'est vrai que c'est important. Je pense qu'on a tous regardé pour drafter s'il sortait cette année, j'imagine. Mais, parce que ça, c'est un bon pic d'ailleurs. Sinon, point 11. Au Japon en tout cas, et en physique, Rise of the Ronin s'est mieux vendu que Dragon's Dogma 2, ce qui est quand même une grosse surprise. Non dire, c'était... ça vous inspire quelque chose ça... Est-ce que vous croyez que Dragon's Dogma 2 est un échec ou c'est que parce que Rise of the Ronin est tellement lié au Japon que le succès et la différence se fait c'est, ils sont pas très loin
je ne sais
là.
Pas non, mais c'est quand même entendu... Ah oui, pardon, vas-y.
Moi j'avais entendu que Dragon's Dogma 2 c'était quand même bien vendu oui, okay, au final okay. Et que du coup, non, au nombre total de ce qu'ils avaient annoncé. Donc j'ai pas l'impression que ça. C'est étonnant, mais je suis pas sûr que Rise of the Ronin ait globalement mieux marché que Dragon's Dogma.
Je pense que c'est un phénomène japonais, non ? Moi je vais c'était mon intention. Mm-hmm. Mais... Valérian, vas-y.
Ouais, mais c'est, je pense que c'est à cause du fait que ce soit sorti tout en même temps avec Princess Peach, etc. Mmh. En fait.
Qui est le mieux vendu d'ailleurs. Sont... Ouais, exact.
Ouais, ils se sont tous télescopés en même temps et du coup, bah, voilà ce qui s'est passé. Quoi.
Tout à fait.
On voit ce que les Japonais achètent plus. C'est d'abord pour les enfants et ouais. Puis, bon, bref. Voilà.
Ouais, c'est effectivement. C'est intéressant. Et Ghost of Tsushima avait été un énorme succès au Japon aussi, non ? Bon, ici, c'est pas exactement la même chose, mais ça montre qu'il y a un appétit pour ce type de jeu-là. Globalement, c'est vrai que ça, on n'a pas de news, et il faut voir aussi avec le online, forcément, et tout ça. Je veux dire, c'est toujours les ventes de jeux, c'est vraiment complexe d'avoir une vue à la fin. Mais est-ce que pour vous, moi ma sensation, mais ça, c'est purement personnel, Dragon's Dogma est un peu une déception. Est-ce que vous avez plutôt cette... Vous, il se situe où, Dragon's Dogma, dans votre... émotionnomètre, toi Jérôme.
Mais ouais, moi c'est l'attirance.
Tu l'aimais pas, voilà. Tu étais
un hater. Non, c'est pas que je l'aimais pas, mais non, faut remettre les choses en. Donc j'ai fait le 1 que j'ai beaucoup aimé, mais que j'ai pas trouvé non plus transcendant. Le 2, c'est le 1
plus beau,
enfin tout ce qu'on veut. Du coup, je ne suis pas encore ultra excité. Moi, ce qui me perturbe beaucoup avec ce jeu, ce n'est pas sa difficulté ou quoi que ce soit, c'est vraiment, apparemment, techniquement, il est il est un peu à la ramasse, quoi. Donc,
ça, j'ai entendu.
Ça donne pas envie de se jeter dedans des one quand on se dit que bah, peut-être que d'ici 5-6 mois, il sera parfaitement jouable. En gros, Cyberpunk, quoi.
Ça, c'est vrai. C'est possible. David ?
Mais donc, je le jouerai oui, okay. En solde.
C'est vrai. C'est vrai que pour c'est Noël, en solde, c'est pas vrai. Ah. Vas-y, David.
Ouais.
Non, mais moi, c'est un peu comme Valérian. Je dirais que je suis étonné de à quel point il y a l'air d'avoir peu d'évolution, entre guillemets. Donc, j'espérais que ce soit... Disons que la réception donne vraiment... La réception critique donne vraiment l'impression d'avoir un Dragon's Dogma, un remake, plutôt que vraiment un Dragon's Dogma 2. Ça me donne un peu envie, mais je trouve que c'est fort cher et que du coup en solde ce sera un bon jeu, un bon moment, mais je suis pas sûr que j'y joue pour le coup.
Je vois. Je me permets de passer au point qui suit. Donc c'était juste pour dire, je sais pas si vous allez rajouter quelque chose, mais Xbox a créé des nouvelles équipes qui sont concentrées sur la préservation de jeux et des plateformes, donc ça peut être intéressant.
C'est très bien, et c'est quand même quelque chose qui faisait déjà vachement bien.
Oui, c'était un peu les meilleurs. D'ailleurs, par exemple, Rayman Origins, si vous voulez jouer, si vous n'avez pas d'ordinateur, parce que sur Xbox, il y a moyen d'y jouer, et donc moi je l'ai checké au Castlevania Lord of Shadows, par exemple. Là, c'est des bêtes trucs, mais donc tout ça, c'est plus possible de jouer, je crois, sur PlayStation. Et donc ça, c'est vraiment très bien qu'on... Et c'est important qu'ils le fassent. En plus, ils sont, je veux dire, c'est un acteur important du marché. Donc ça, c'est une super bonne nouvelle. David, toi, tu veux rajouter quelque chose ?
Non, c'est super. Ça, je suis d'accord. En soi, mon espoir, d'ailleurs, sur la Switch 2, c'est qu'au moins, elle soit rétrocompatible. Du coup, c'est super s'il y a de la conservation en général. Là.
Tout à fait. Ça, c'est le gros point, mais elle sera rétro.
Pardon. Oui, bien sûr.
Sinon, après, il y a eu plusieurs news qui concernaient EA qui se sont suite l'une après l'autre et suivies l'une après l'autre. Et donc, qu'est-ce qu'on a eu ? Je pense que le gros point, celui qui a fait les plus gros tristes, c'était qu'il y a un remake de Dead Space 2 qui a été mise au placard, donc ça c'est l'expression qui a été utilisée, pour que Motive puisse se concentrer sur les nouveaux Battlefield. Non, je pense que c'est... EA a dit c'est pas vrai, mais Jason Schreier a dit que c'était quand même vrai, mais que c'était peut-être un nouveau Dead Space lui-même. Tu vois, donc c'était pas nécessairement le 2, donc... Mais en gros, Dead Space est mis au... La série Dead Space est probablement mise au placard pour que Motive se concentre sur Battlefield, ce qui est quand même dommage, parce que le remake, après Dead Space, reste un jeu. Il est ce qu'il est, mais le remake était un très bon remake. Donc, je pense que c'est quand même dommage, en gros. Vous, ça vous fait penser quoi, ça ? Cette news d'annulation presque du projet, même si c'est pas vraiment une annulation.
Vas-y, David, si tu...
Non, moi je voulais dire, en soi, c'est rigolo parce qu'en soi, c'est un jeu dont on ne savait même pas l'existence, du coup... Je peux même pas vraiment dire que ça m'attriste ou quoi que ce soit parce que c'était jamais vraiment dans mon esprit qu'il allait... On pouvait supposer qu'il allait y avoir un remake de Dead Space 2, mais comme on n'a rien vu, ça n'a jamais été vraiment annoncé. Ça ne m'attriste pas plus que ça. C'est dommage que... C'est la série Battlefield, j'ai l'impression que EA s'est mis un peu dans une mauvaise situation avec Battlefield 2042, donc j'imagine qu'ils veulent réparer la situation avec soit le prochain épisode, soit le 2042 en lui-même. Donc d'un côté, je comprends parce que c'est un peu leur série qui rapporte beaucoup d'argent avec FIFA, mais ça reste dommage dans le sens où je pense qu'aucun de nous trois, ça nous attire des masses, Battlefield.
Voilà, c'est parfait, David, à dire ce que je voulais dire. Donc,
génial, c'est vrai que c'est un peu le bon résumé. Et ça illustre aussi un peu ce mauvais côté de l'industrie où tout va aller vers ces jeux qui peuvent rapporter beaucoup plus d'argent. Donc, après, ça, c'est la vie. Sinon, il y a quoi d'autre comme news ? Il y avait que la souscription EA, donc ça s'appelle EA Play, si je ne me trompe pas, a augmenté de prix. Donc, il passe, je n'ai pas noté de quoi se passe. Ça passe du style de... De 30 à 45.
Ah, merde, je l'ai plus.
C'est pas très grave. Il y avait quand même 13 millions d'utilisateurs actifs en 2022. Donc, je sais pas combien il y en a maintenant. Ça n'a pas nécessairement augmenté. Je pense pas que c'est un truc à gros succès. Ça m'a surpris qu'il y en ait autant. Tu vois, parce que je pense que ça. Là, ils se rendent compte qu'il n'y aura pas beaucoup plus. Et donc, ils se disent, bon, essayons de faire que ceux qui payaient payent plus.
Que ceux qui sont là
voilà. payent plus. Exact. Mais donc voilà, rien à rajouter non plus de mon côté. Est-ce que vous, ça vous inspire quelque chose? Non. Vous n'avez jamais utilisé Yeplay? Je suis le seul, je suis sûr, à l'avoir utilisé.
Non. Ouais.
Pour faire un, je ne sais pas si vous vous souvenez, une trial version de EA Football Club.
Ouais.
Pour 1€, voilà, exact, ça, c'était. C'était très bien, c'était très bien. Qu'est-ce que j'ai maintenant comme point 14 déjà? C'est que MiHoYo, donc ça, merde, je n'ai pas noté les jeux qu'ils font, mais c'est Genshin Impact, rentre dans le top 15 des entreprises privées avec la plus grande valeur. Donc ils sont valorisés à 23 milliards, donc ça c'est ce que j'ai noté. Par contre, il y a beaucoup d'astérisques quand même parce que c'est selon certains critères. Je veux dire, pour rentrer dans le classement, il fallait, je ne sais plus quoi, être fondé après 2000 et ne pas être une grosse entreprise quand même, tu vois, mais suffisamment grosse. Donc, mais c'est quand même impressionnant, je pense. Donc il y a par exemple SpaceX ou OpenAI sont dans ce truc-là. Et ici, ils se trouvent en numéro, c'était combien que j'ai dit? Ah non, j'ai rien 12. Dit. 12 ici. Donc c'est impressionnant. Donc ça ils rapportent énormément d'argent. Quand même.
C'est Honkai Star Rail, aussi. Je pense, le truc qui rapporte le
c'est
plus.
Vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, ça, ça apparemment.
Enfin, qui est sorti l'année passée. Ouais. Il me semble qu'on en avait déjà parlé.
On en a dû parler, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est... Et y a aussi d'autres projets, non? Il n'y a pas un truc ZZZ, ou je ne sais plus comment ça s'appelle aussi, qui vient de. Ils sont bons, quand même.
Tout
ils
à
sont
fait.
Bons. Genshin Impact. Ici en Belgique, je ne sais plus si on peut jouer ou pas. Parce qu'à un moment, on ne pourrait pas jouer. Je ne sais pas si vous vous souvenez.
On ne
avait...
peut toujours pas. On ne peut toujours pas. Pas de façon facile, quoi. Voilà, c'est ça.
I see, I see. Et sinon, dernier point. Pas un point intéressant quand même, mais dont Valérian va vous parler, c'est que il y a une polémique Deck Nine, non? Et liée à des symboles nazis, donc c'est toujours entre guillemets surprenant. Mais
ouais,
voilà, exact.
Donc remettons un peu les choses en contexte. Donc c'est un article de chez IGN hein, qui raconte un peu la vie chez Deck Nine Games, qui est donc maintenant les gens qui s'occupent de la licence Life is Strange. Donc pour remettre un peu les choses en contexte, eux, ils avaient récupéré Life is Strange après le 2. Ils s'étaient occupés de la préquelle, j'ai oublié, After the Storm, j'ai oublié le nom. Oh, aidez-moi, s'il vous plaît. Non, Before the Storm.
Okay. Before the Storm, ouais.
Merci, ok, voilà. Et ils ont fait le 3, avec des guillemets, le True Colors qu'on connaît, qui a gagné
qui avait bien marché,
l'année passée. Voilà. Et qui a même gagné un prix, je pense, au Game Awards,
Un truc sur l'inclusion aussi, ou je ne sais plus si au BAFTA, ou
il y avait
quand même quelques prix, voilà, exact.
C'est ça. Et donc, que nous raconte l'article? Eh ben, l'article nous raconte un peu comment est géré Deck Nine Games. Et, je vais vous donner deux, trois petites choses. Donc, l'article commence en parlant effectivement de ces symboles nazis. Donc, ce qu'ils ont remarqué, c'est durant le développement du nouveau Life is Strange, des développeurs sont tombés à certains endroits sur ces fameux symboles nazis. Donc, il y avait un mème raciste qui était visible. Il y avait la mention du nombre 18. Alors, je vous le fais. 1, c'est A. 8, c'est H. Voilà. Il y avait le nombre 88. Donc, ça, c'est HH. Je vous laisse deviner ce à quoi ça fait référence. Et il y avait des runes utilisées par les nazis pour communiquer entre eux. Alors, donc, a priori, effectivement, quand on voit le nombre 18 ou le nombre 88, ça ne fait pas tout de suite penser à ça. Enfin, en tout cas, pas pour des gens qui ne sont pas au courant de ça. Et donc, comment ? On appelle ça, en fait, un dog whistle, qui est comme les sifflets pour chiens, que, en gros, seuls les chiens peuvent entendre. Et donc, en gros, le risque, c'est que ce soit en fait des messages à un certain type de personnes qui seraient donc dissimulées dans le jeu. Alors bon, donc passons le côté ici. En fait, ce qui est assez fou, c'est qu'on apprend que donc, tout ça a été remonté au management et que le management, en fait, est resté silencieux pendant super longtemps et n'a rien fait. Avant de décider de faire lui-même sa propre enquête, enquête interne qui a fini par décrété que ce n'était pas intentionnel. Donc voilà, il y a eu beaucoup de... Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Et finalement, bah, ils ont demandé une enquête externe qui a eu lieu, mais où il n'y a jamais eu de rapport visible ni rien. Donc vous voyez un peu le truc fichy ici. Mmh. Et alors, plutôt que de raconter tout ça, en fait, ce qui se passe, c'est que l'article se permet aussi de relater donc, des commentaires de personnes qui travaillent dans la boîte et qui attaquent assez ouvertement la direction de la boîte. Donc, qu'est-ce qui est dit ? J'ai essayé de faire un petit résumé. Donc, c'est une boîte qui aime la culture du crunch. Hein, donc, typiquement, il y a une des personnes qui travaille qui a dit qu'ils avaient fait entre 70 et 80 heures par semaine durant tout un mois entier quand ils étaient en train de bosser sur True Colors. Il a été ramené que le crunch, il est surtout dû à Square Enix qui pense que Life is Strange, c'est entre guillemets une petite licence et que finalement... ici Deck Nine ils travaillent pour pas cher, etc. Donc du coup ils leur donnent très peu d'argent, mais par contre ils sont vaches sur les deadlines. Et alors ce que les employés ont l'air de regretter, c'est que au niveau de la direction, bah, ils essayent pas de négocier les deadlines ou le budget avec Square Enix, et donc ils sont toujours sous la pression, quoi. Ce qu'on apprend aussi, c'est que Square Enix, en fait, ne voulait pas que Life is Strange soit considéré comme un jeu gay. Voilà, donc ça, c'est toujours très sympathique pour attaquer l'image de Square Enix. Très bien. Et qu'ils empêchaient de dire quoi que ce soit sur la sexualité du personnage de True Colors pendant les communications de presse, jusqu'à ce que les copies soient envoyées et que les reviews soient tombées. Parce qu'à partir du moment où ils ont appris que c'était positif, bah, ils n'ont pas eu... Enfin, ils n'ont plus eu de soucis à parler de la bisexualité du personnage principal, quoi. Donc, voilà. Donc, Square Enix prend un coup, un bon petit coup dans l'article. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ouais, donc, on a toute une partie sur l'environnement toxique et la protection de certaines personnes qui, apparemment... Enfin, voilà. Donc, là, c'est toujours un peu compliqué parce qu'on a... Enfin, il y a la personne qui dit des choses, il y a des personnes qui disent d'autres, on n'était pas là, donc enfin, voilà, faut croire qui on veut, mais qu'est-ce qu'on sait, c'est qu'ils ont des faibles revenus, c'est très difficile d'être promu dans son job, de monter les échelons, donc il y a le crunch, il y a apparemment du harcèlement sexuel comme dans beaucoup de boîtes, comme on a entendu par exemple chez Ubisoft, etc. Il y a de la transphobie, et en gros, le management ne fait rien du tout pour aider ici. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Ça résume déjà pas mal les choses. Il y a toute une histoire avec le Chief Creative Officer qui est assez malsaine. Et... Voilà, je pense qu'il faut le lire pour voir un peu ce qui s'y passe. Et alors, bon, ce qui n'aide pas le studio, là, pour l'instant, c'est qu'en fait, ils ont eu plein de projets. Par exemple, avec Telltale, ils devaient travailler sur The Wolf Among Us 2, je pense. Et ça a été annulé, etc. Donc, du coup, ils perdent de l'argent. Et là, pour l'instant, ils sont en train de se détester de pas mal de gens. Et je pense qu'ils sont passés de 160 à 80 employés, un truc comme ça, en 2 ans. Donc voilà, ça va pas très bien chez Deck Nine et ça va pas très bien pas que financièrement, parce que à l'intérieur de la boîte ça a l'air d'être hautement toxique. Et voilà.
C'est vrai que c'est fou quand même, ouais.
Ouais, c'est assez effrayant quand même la situation dans le.
Parce que sachant que c'est Life is Strange, quoi, bien évidemment. qui est censé être. Un peu
une culture bienveillante et tout, gérer, c'est ça que ça promeut normalement, je pense, ou que le jeu promeut.
Voilà.
C'est paradoxal, non seulement choquant, mais c'est choquant et paradoxal à la fois. Donc, c'est fou, ouais, c'est
tout
fou.
À fait.
Je me demande qui est ces développeurs qui mettent ces symboles nazis, c'est quand même dingue. Je veux dire,
Mais ouais, c'est ça.
C'est de l'office du CEO, non, je veux dire, c'est parce que sinon. C'est bizarre, mais c'est une histoire bizarre, effectivement. C'est dommage, c'est vraiment triste.
Et on mais voilà, je sais pas si j'ai raté des trucs avec toi.
Ah, non, 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 moi j'ai...
Ouais, il y en a énormément.
En diagonale, et c'est vrai que c'était assez choquant. David, tu veux rajouter quelque chose?
Non, 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 c'est... Oui, c'est... C'est choquant et c'est triste que ce soit, parce que en soi non seulement c'est Deck Nine mais c'est aussi Square Enix qui est,
c'est vrai,
qui est pointé, ouais. Et c'est triste que ce soit si généralisé entre guillemets.
Tout à fait. Et pour enfin juste pour préciser les choses ici, c'est principalement Square Enix London qui est visé dans l'article. Okay. Parce que c'est avec eux qui traitent. Voilà, donc juste comme ça c'est clair, c'est Square Enix London qui est cité dans l'article. Ah ouais.
Non, ça c'est bien effectivement, mais bon, donc de mon côté moi je pense qu'on a fini avec cette nouvelle version de Hanson France, on ne faut pas, qui était quand même rigolote, donc à voir si
à réitérer, voilà, de temps
exact,
en temps
exact. Je te rends la main, Valérie.
Ça marche. Ben, on va passer alors au jeu du moment, et donc de ce que j'ai compris, il n'y a que moi qui ai un petit jeu du moment.
Tout à fait.
Très intéressant.
Et mon petit jeu du moment, c'est que j'ai fait la démo de Stellar Blade, qui est donc disponible sur PS5. Que dire ? Ben, le début, je pense que le tout début, c'est vraiment le début du jeu. Et après par contre je sais pas si la suite était exactement le début, enfin la suite du début du jeu, ou si c'était un tout petit peu plus loin, mais certainement le tout début c'était le tuto, et le tuto est franchement bien foutu. Donc on arrive sur la planète Terre, donc pour rappel on est, je sais pas exactement ce qu'on est, mais on a l'air d'être une sorte d'androïde qui est envoyé pour essayer de pacifier la Terre pour que les humains puissent retourner y vivre. Et en fait on voit au début tout, enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais ils sont des milliards d'androïdes à être envoyés, donc c'est vraiment un truc d'envergure, et à la fin on est quasi le seul rescapé, tellement c'est brutal. Mais donc franchement le début est très sympathique, et après la suite est un peu plus classique, dans le sens où on a notre personnage, et alors si vous avez déjà joué à Nier Automata par exemple, ou à Bayonetta, ou des trucs comme ça, bah, vous savez où vous êtes, hein, c'est un pseudo-couloir avec des ennemis au fur et à mesure, et puis après il y a une petite touche de Dark Souls, de Souls-like qui va arriver, parce que on va pouvoir s'arrêter à des camps pour refaire ses soins, etc. Les soins qui sont donc refaits automatiquement comme des comme des fioles d'astuces, des trucs comme ça, et les ennemis qui vont revenir, mais bon, voilà, vous voyez bien le style, et à la fin de la zone, bah, on a un petit boss balèze qui va nous permettre de passer à la zone suivante. Donc du coup on est un peu sur un mix entre je sais pas, Devil May Cry, Bayonetta, Nier Automata et du Souls, quoi. Et alors, ce qui est rigolo, parce que en faisant la démo, je me suis dit, ouf, c'est plus dur que ce que je pensais, quoi. Parce que donc, les ennemis demandent beaucoup d'attention. Comprendre, habituellement, il y en a genre un ou deux. Dès qu'ils sont deux, ça devient... Il faut vraiment faire très, très attention, quoi. Donc, ils ont un système de parade. Et le truc qui fonctionne bien, c'est que c'est... je sais pas comment expliquer ça, mais elle est jouissive, dans le sens où quand on y arrive, ça marche bien, l'effet donne bien, et donc pour ce type de jeu, réussir à comment dire ça, à bien maîtriser le game feel, quoi, c'est essentiel. Et là ils l'ont vraiment bien maîtrisé. Pareil pour l'esquive parfaite, ça marche très bien. Et alors il y a des arbres de compétences. Durant la démo, il y en avait trois qui étaient débloqués. Il y en avait pour l'attaque, la survie et les coups spéciaux, si je ne dis pas de bêtises. Il y en avait trois qui étaient grisés et on ne pouvait pas voir ce qu'il y avait. Et dans les arbres de compétences, bah, typiquement, il y a des trucs du style « c'est plus facile de faire une parade » ou « c'est plus facile de faire une esquive parfaite » ou où on rajoute des coups lors de nos attaques et des trucs comme ça. Donc, ça a l'air franchement très sympa ici. J'étais un peu déçu par la direction artistique. Je sais pas, ça m'excite moyen parce que c'est quand même... Enfin, c'est très post-apo avec un mix... comment on appellerait ça Alien. Enfin, pas Alien, mais vous voyez, les créatures qu'il faut aller tuer, c'est très extraterrestre comme ça. Et du coup... ça me parle moins qu'un univers plus fantasy, quoi. Voilà. Et alors, pour les points qui fâchent vraiment, c'est... Bon, j'ai mis le doublage anglais. Je ne sais pas si c'est la première langue ou pas, mais c'était franchement très bizarre et pas terrible. Et d'ailleurs, au niveau des dialogues, c'est souvent extrêmement absurde. Mais quand je dis absurde, c'est vraiment très con, quoi. Et donc, on se dit, quoi, ça a été écrit par un ado. Enfin, c'est un peu bizarre. Donc, ça, c'est vraiment les points qui fâchent, je trouve. Mais après, je pense que si on le met en coréen et qu'on s'en fout un peu de l'histoire et qu'on est juste là pour le jeu en tant que tel, je pense que ça va bien fonctionner. Et donc voilà, donc j'ai été agréablement surpris par le game field et tout.
Chouette ça quand même.
Cool, hein, ça, mais... c'est pas mal. Ouais, vas-y, exact, parce que ça, de t'entendre décrire, ça donne envie. Je veux dire,
d'accord.
L'histoire, je sais pas, c'est ça ne vendait pas du rêve déjà de base, mais que tu dises que ça, les dialogues n'ont l'air d'avoir aucun sens, ça ne peut pas améliorer la chose. Du coup, j'espère pour lui qu'il n'est pas trop long, parce que je pense que le gameplay peut... Ou que le gameplay est assez varié pour t'emmener toute la durée. Ce serait ma peur, en tout cas, d'entendre ce que tu dis, mais...
Mais moi, ce que j'ai... Donc, dans mes notes que j'ai fait, c'est... J'ai écrit qu'il a le potentiel d'être plus que convenable, mais probablement moins bien que Lies of P. Mais Lies of P était vraiment très, très bien. Enfin, si vous vous rappelez de ce que
oui,
j'en ai
tout
dit...
Tout à fait, bien sûr.
Tout à fait.
Voilà. Donc voilà, je pense qu'il sera mieux que ce que je pensais. Ça, à mon avis, ça va pas non plus casser trois pattes à un canard, mais ça sera un jeu agréable.
Bien, ouais, ça va être chouette. Je
trouve ça chouette qu'ils aient sorti une démo. En tout cas, je trouve ça une bonne stratégie.
Tout à
de
fait.
Leur part, parce que ça permet au moins de tester, sentir que bah, si le système de combat est chouette, ça donne un peu plus envie quand même.
Ouais, et alors, juste d'un point de vue difficulté, donc ouais, les ennemis, c'était quand même assez chaud. Par contre, les boss, donc il y en a deux, enfin il y en a ouais, 1,5 dirais-je. Le boss principal, donc je suis mort la première fois. Et la deuxième fois, je l'ai eu du premier coup, quoi. Bon, alors, je sais que je ne suis pas le pire des joueurs de ce genre-là, mais c'est juste pour dire, il ne m'a pas fallu 18 essais pour pouvoir arriver à bout du boss. Donc, ça a l'air quand même... OK.
Pas mal.
Je sais pas.
Donc, plutôt difficile, quand même.
Mais bah, je l'ai trouvé... Après, j'étais pas prêt pour ça, je pense. Quand je l'ai lancé, j'avoue que j'étais pas prêt. Enfin, j'étais un peu fatigué, etc. Et donc, quand on arrive sur les premiers ennemis qui sont normalement des ennemis, on se dit, OK, donc ceux-là, tu vas les défoncer, etc. Et puis d'un coup, tu te dis, bon, quand ils me touchent, il y a un quart de ma vie qui vient de partir. Et même s'ils sont lents, il faut quand même essayer de parer, etc. Quoi. Donc voilà, ça demandait de la concentration.
Intéressant quand même, intéressant. À suivre, celui-là.
Quel est ton pari sur sa cote Open Critique?
Je ne sais pas, 78, 80, quelque chose comme ça.
Ok.
Je pense, enfin, oui. C'est un peu compliqué parce que c'est toujours la même chose. Est-ce que les gens vont s'exciter sur le game feel? Est-ce qu'il va se faire punir pour ces interactions moisies entre les personnages? Je sais pas. Alors, j'ai pas. Enfin, la démo est pas très longue. Hein, c'est une heure, je pense. Donc, Donc voilà. Donc j'ai un peu du mal à le situer, parce que j'avais presque envie de dire qu'il pourrait faire 82, comme il pourrait faire 76, quoi.
Ouais. Mais oui, c'est vraiment un jeu correct, bon, mais pas... qui peut prétendre un 87-88, quoi.
Non, non. Mais par exemple, c'est absolument mon type de jeu, quoi. Donc, je sais que quand je vais m'y mettre, je sais que je vais le jouer, je pense que je vais bien aimer. C'est juste que, à mon avis, quand je le comparerai aux autres, il sera probablement pas très très haut dans la liste de tout ce qui est déjà sorti, quoi. Mais voilà.
Mais chouette, ça me donnerait envie d'essayer de la démo.
Ouais, bah, franchement, pour se donner une idée du truc, c'est très bien. C'est très bien.
Super.
Mais voilà. Voilà. Et donc, je pense qu'on peut passer au plus grand moment de ce podcast, le fameux moment où il faut parler de Final Fantasy VII Rebirth. Et où il n'y aura que David qui va parler, parce que moi, je n'ai rien fait. Donc, j'ai littéralement 5 points sur lesquels je peux, entre guillemets, ajouter quelque chose par rapport aux premières impressions qu'on avait déjà eues. Mais je vais juste me permettre, quand même, de dire que les premières impressions avaient été données après plus de 20 heures. Et qu'après plus de 20 heures, on a quand même une bonne idée de comment se joue un jeu.
Voilà, c'est bien.
Et donc, qui va changer, le seul truc qui risque de changer notre perception du jeu, c'est son histoire. Et là, je pense que David est beaucoup plus à même que moi de nous dire comment ça a fait évoluer sa vision du jeu. Vas-y, David.
Tout à fait. Et je pense que la dernière fois, moi, j'étais plutôt à 12h, quelque chose comme ça. Je ne sais plus exactement quand on avait enregistré le moment où on avait discuté du jeu la première fois, mais ici je suis plus proche des 30 heures pour le coup, donc c'est pas mal. Je suis au chapitre 9 sur 14 et c'est particulier parce que j'aime beaucoup le jeu jusqu'à présent. Je trouve que donc j'ai vraiment changé ma façon d'y jouer sur base de ce que j'avais fait la dernière fois. Donc la dernière fois, le jeu va vraiment s'orienter sur cette structure qui devient assez claire et qui est une partie monde ouvert, puis un couloir scénaristique, puis une partie monde ouvert, puis un couloir scénaristique. Et sachant que le jeu te permet de revisiter les précédents mondes ouverts sans aucun souci à partir d'un moment, donc il n'y a pas de limitation de « je dois visiter ce monde ouvert maintenant ». Je trouve que
que les parties scénaristiques fonctionnent extrêmement bien. Valérian, toi, tu as fait maintenant la partie de Junon avec toute la parade, par exemple. Je trouve que cette partie-là est vraiment amusante, est vraiment bien mise en scène. C'est très chouette, c'est très rigolo. Ça a vraiment un charme. Tu as, entre guillemets, la bêtise de la situation fonctionne bien, je
C'est ce
trouve.
que c'était dans mes nouveaux points que je voulais dire, c'est il y a un moment où le jeu s'assume complètement dans le côté bête, et en fait c'est agréable en fait d'avoir un jeu d'une aussi grande qualité technique, etc. Avec un comment on appelle ça, une ambiance aussi aussi débile en fait, et qui s'assume bien en fait. Et donc ça, enfin je trouve que c'est extrêmement bien réussi. Ouais.
Non, tout à fait. Et je trouve que ça, dans les parties histoire principale, ça fonctionne vraiment bien. Je trouve que pour moi, j'avais déjà un peu le souci la dernière fois, mais ça s'est confirmé au fur et à mesure. Je trouve que dans tout ce qui est quête annexe, ça fonctionne moins bien quand c'est bête, juste parce que il y a moins les
On est moins
moyens.
attaché. Hein.
Et du coup, ça fait. On est moins attaché, il y a moins les moyens de mise en scène et tout ça. Et donc, ça donne l'impression de voir soudain un personnage qui est supposé. Comment dire? Tu vois, ça donne vraiment l'impression de voir les blagues de genre quelqu'un qui marche sur un râteau et se le prend plein visage, qui sont supposés faire rire un enfant, et qui, quand t'es adulte, bah, ça fonctionne pas des masses. Et je trouve que il y a pas mal des quêtes annexes qui vont dans ces directions-là quand même, et je trouve que ça fonctionne pas vraiment. Et entre guillemets, parce qu'il y a des. Après la partie où tu es Valérian, et je ne vais pas vraiment spoiler l'histoire, mais les endroits, mais ça, a priori, tu les connais, mais tu vas passer de Junon, tu vas aller à la Costa del Sol,
Ouais.
et puis
Gold
à
Saucer. Ah
voilà,
non,
au
pas tout
Gold
de suite.
Saucer. J'ai reçu, c'est plus ou moins l'enchaînement. Après, il y a des mondes ouverts en cours de route, mais c'est
Oh.
l'enchaînement. Et je trouve que bah, Costa del Sol et le Gold Saucer, ça fait très. Vacances comme endroit, entre guillemets. Et ça fonctionne bien sur certains côtés qui sont les côtés un peu plus scénarisés, mais ça a beaucoup de côtés un peu bébêtes aussi. Et je trouve que l'équilibre entre la partie principale qui elle fonctionne bien et qui est rigolote et la partie quête annexe qui essaye aussi d'être rigolote, ça fonctionne un peu moins bien. Je trouve que ce qui est rigolo avec ces deux parties-là, c'est que le côté mini-jeu explose totalement,
Bah
là pour le
oui.
coup, et ça tu peux facilement l'imaginer. Et là encore une fois, il y en a qui sont très rigolos, il y en a qui sont vraiment nuls, vraiment vraiment nuls. Pour le coup, il y en a un que j'ai fait une fois et chez là, non, ça plus jamais. Mais du coup, mais ce qui est indéniable, c'est l'effort qui est mis dans tout ce qui est environnement, mise en scène et tes personnages principaux qui eux fonctionnent. Je vais dire, tout le côté, tu peux avoir une relation qui s'améliore avec tes personnages en fonction de si tu vas parler avec ou pas, ou si tu vas à tel moment discuter plutôt avec l'un ou avec l'autre, ça fonctionne vraiment bien.
Ouais.
Ouais, vas-y,
Est-ce qu'on
Valérian.
peut, parce que donc on est dans le podcast, tout est dit, on peut spoiler
Ouais,
quand même des
tout à
trucs.
fait.
David, Golden Saucer, tu as la fini?
Oui.
Et t'as eu le rendez-vous avec qui?
Avec
Le
Tifa.
date.
Avec
Ah, oh, t'as
Tifa.
raté. Ouais, ok. Enfin, t'as
Ça,
raté. Ou tu
c'était
voulais,
mon
tu voulais.
objectif,
Ah non,
Tifa. Donc
ok,
moi,
d'accord,
j'étais
très bien.
content. J'étais satisfait
Parce que
de mon
Tifa,
travail.
c'est celle avec qui c'est le plus facile d'avoir le date. Et bon, moi, c'est un peu difficile parce que comme je fais tout pour tout le monde, je pense
Ouais.
que j'aurais Tifa aussi, mais j'aurais préféré avoir Iris. Mais bon, voilà, c'est chacun son truc. Bref.
Tout à fait, chacun son truc. Mais je pense en effet que si tu fais tout pour tout le monde, tu vas te retrouver avec Tifa pour le coup.
Parce
Ça,
que je
je.
pense que c'est celle de base, ouais. Ok, pardon, désolé de t'avoir coupé
Pas
pour
de
ça.
souci. Mais non, franchement, je trouve que la Costa del Sol et le Gold Saucer sont vraiment des endroits rigolos où il y a des scènes hyper loufoques qui sont hyper bien mises en scène et je trouve ça. Vraiment très amusant, mais ce qui est particulier, et c'est là où je trouve que le jeu semi-fonctionne, mais on s'y attendait, c'est que l'histoire principale avance pas des masses, entre guillemets, parce qu'on est toujours en train de poursuivre Sephiroth. C'est pour ça qu'on se retrouve à aller dans ces deux endroits-là. Mais on a à gérer. Qu'est-ce que Sephiroth fait, où est-ce qu'on va, pourquoi est-ce qu'on le va. Tu vois, il n'y a pas vraiment un
une motivation vraiment importante et ça fait... Le jeu ne met pas l'accent dessus clairement sur ces parties parce que c'est la partie plus vacances, autant voyage, mais ça contraste un peu quand tu réfléchis à ce qui est supposé se passer, à ce qu'on est supposé faire, et ce que tu fais vraiment, ça fait un peu... C'est un peu bébête, quoi, comme bazar. Et toute cette partie-ci, du coup, je l'ai trouvée très amusante, je l'ai trouvée très charmante par les relations avec les personnages, mais j'ai l'impression que je viens... tout doucement seulement d'arriver dans une partie qui a l'air de un peu plus faire avancer l'histoire. Mm-hmm. Mais c'est pas pour autant que j'ai pas aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé ce que j'ai joué jusqu'à présent. Les parties monde ouvert, moi ça reste comme avant. Je trouve que c'est vraiment du Ubisoft, mais avec des versions très basiques. Pour être honnête, je n'ai eu aucune surprise jusqu'à présent dans aucun des mondes ouverts. Et je viens d'arriver dans un monde ouvert, dans une partie monde ouvert, où j'ai pour la première fois eu une surprise, où j'allais vers un endroit et il y a un truc qui arrivait sans que je cherche à... sans que j'aille vers un point jaune et qui a déclenché une cinématique et tout. Et là, j'étais là, rigolo, première fois que ça arrive, est-ce que ça veut dire que... Tu vois, j'avais l'impression que là, ça me lançait dans une quête annexe d'une façon un peu plus organique. Mm-hmm. Alors que c'est jusqu'à présent... voilà, j'avais l'impression que jusqu'à présent, les mondes ouverts, c'était vraiment, il y a un point jaune là, tu vois, au point jaune, et puis voilà, on a checké un truc, on va au point jaune suivant. Du coup, ça m'a intrigué un peu, mais j'ai pas eu le temps d'explorer beaucoup plus loin dans le monde ouvert dans lequel je suis pour l'instant. Donc ça, c'est toujours très chouette. Niveau combat, c'est particulier parce qu'on en avait discuté déjà la dernière fois, Valérian, que c'est beaucoup de choses à prendre en chemin.
Moi, j'ai une grosse update pour le combat à faire.
Ah, c'est rigolo. Parce que moi, je trouve que plus ça avance, plus je le prends un peu mieux en main, mais je ne le prends mieux en main que quand le jeu me l'exige, entre guillemets. Donc, comme, je trouve que les boss, par exemple, sont l'endroit où soudain le jeu devient... un peu plus exigeant et où du coup je fais un peu plus attention à éviter les attaques, etc. Parce que jusqu'à présent, je n'ai pas eu de niveau de difficulté qui a fait que j'avais besoin de vraiment faire attention à ce que je faisais niveau combat. Et c'est peut-être... Après, je n'ai pas augmenté la difficulté parce que je n'ai pas non plus envie que le jeu devienne une souffrance à chaque combat. Mais je trouve qu'en ce niveau de base, peut-être déception, entre guillemets, c'est que je trouve que le sphérier que tu peux débloquer, honnêtement, je n'y prête aucune attention. Et je trouve que les matérias, j'y prête attention à moitié. Et ça me frustre un peu parce que je suis là, je suis sûr que je peux faire des trucs mieux avec les matérias, mais je n'ai pas besoin de réfléchir et ça marche. Du coup, j'y réfléchis pas et je mets des trucs de base de genre lui il a soin et puis on distribue les sorts aux autres et puis c'est tout ce que je fais. Du coup, j'ai l'impression que là il y a un système qui peut être plus intéressant, mais que le jeu est pas assez exigeant dans le niveau dans lequel je suis pour que ça le soit et que si je l'augmente, ça deviendra quand même. Je pense que ça frustrera mon plaisir. Du coup, j'ai pas l'impression de trouver un équilibre. Vraiment hyper agréable. Je trouve ça satisfaisant, mais je trouve ça satisfaisant sans plus, quoi.
Ouais. Ben, en fait, moi, c'est plutôt dans la façon dont je jouais, je veux dire, dans un combat même, pas dans les systèmes vraiment autour. Enfin, si, un peu, mais... le truc, c'est que ce que j'ai remarqué, c'est qu'à un moment, je me suis dit, OK, là, c'est bon, je change de personnage un peu plus souvent. Et quand j'ai commencé à changer de personnage vraiment plus souvent, j'ai commencé à trouver le truc vachement mieux. Mmh. Et donc maintenant, en fait, quand je suis en combat, je pense que je passe peut-être 5 secondes par personnage et puis je change. Mmh. Et en fait, ce que ça fait, c'est que du coup, j'ai beaucoup plus... de personnages qui débloquent les barres d'ATB, donc en fait je lance plus de compétences et donc du coup je peux faire plus de compétences synchronisées, enfin bref, c'est vraiment une sorte de truc en chaîne qui fait que j'avais pas compris et qui me frustrait au début parce que j'étais là genre mais vas-y, ça fait 10 minutes qu'on est en combat et les autres ils ont toujours pas une seule charge de la barre d'action.
D'ATB, ouais, exact.
Voilà. Et donc ça me frustrait et quand j'ai compris qu'il fallait que je change allez, toutes les 5 secondes pour les faire monter, faire un truc, etc. Maintenant, je trouve que le combat devient beaucoup, beaucoup plus amusant. Donc voilà, j'étais content d'avoir découvert ça.
Tout à fait. Non, et ça, je suis d'accord avec toi, que je pense que c'est la façon dont le jeu est supposé se jouer, c'est vraiment de changer continuellement de personnage dès que l'un a une barre d'ATB qui est remplie, de passer à... de déclencher une action et de passer à un autre pour pouvoir les remplir, parce qu'en effet l'IA fait pas un bon travail à ce niveau-là.
Non.
Et les barres d'ATB ne se remplissent pas si tu laisses un personnage faire lui-même ce qu'il a envie de faire. Donc Mais honnêtement, niveau boss, il y en a vraiment de très chouettes plus loin dans le jeu. Donc ça, je trouve que niveau boss, ça fonctionne toujours aussi bien. Et c'est des personnages toujours aussi... c'est des combats toujours aussi intenses avec une belle mise en scène et tout. Donc ça, c'est super chouette. Niveau ennemis, la variété d'ennemis est assez chouette. Et ça varie assez. Il y a certains... ennemis qui sont un peu plus chiants que d'autres, mais ça varie suffisamment le type d'ennemis à combattre que ça en devient amusant. Et pour être honnête, maintenant j'ai tous mes personnages, je pense. Non, peut-être pas. J'ai Yuffie et j'ai Cat Sight, c'est ça le... j'ai un
Cat Sight, oui, je sais
voilà,
pas comment...
merci. Je sais pas comment on prononce, mais... Ouais. Et les deux sont amusants à jouer, vraiment. Et c'est ça qui est... Et ça, le côté du combat que je lui donnerais vraiment une valeur, c'est que tous les personnages sont vraiment différents à jouer. Et donc, changer de ton équipe change vraiment un peu le feeling et la façon de jouer avec les différents personnages. Donc ça, à ce niveau-là, ça fonctionne bien. Moi, c'est vraiment ma frustration, en plus que j'ai l'impression que je ne dois pas m'engager avec les systèmes à fond pour réussir. Et du coup, il y a la petite frustration de voir un peu une porte semi-ouverte où il y a peut-être quelque chose de chouette à faire, mais où tu as un peu la flemme de t'engouffrer parce que tu n'as pas l'impression que c'est nécessaire, entre guillemets.
Ouais,
mais du coup, moi, c'est un peu, je dirais, c'est ça un peu mon avis. Moi je suis vraiment de l'avis qu'il vaut mieux aller en zigzagant légèrement dans l'histoire principale, c'est-à-dire j'aime bien faire les quêtes annexes que le jeu te donne officiellement, c'est-à-dire les quêtes en vert, ça j'aime bien les faire. Mais je trouve que faire les mondes ouverts en entier a vraiment peu d'intérêt jusqu'à présent, dans le sens où il y a... comme je l'ai dit, j'ai joué 30 heures et je pense que c'est la première fois que dans un monde ouvert, je vois un truc qui arrive semi-organiquement et qui me fait me dire, tiens, est-ce qu'il y a des choses à découvrir autrement que par des points jaunes? Mais je trouve que 30 heures pour en avoir une, c'est beaucoup. Donc,
on a fait plus ou moins la même critique à Starfield l'année passée. C'est une blague.
Tout à fait. Mais du coup, voilà, moi c'est un peu mon avis sur le jeu. Moi j'aime beaucoup et je trouve que c'est un jeu qui met vraiment les moyens là où il devrait dans tout ce qui est mise en scène et histoire, et que les personnages sont vraiment charmants. C'est vraiment ça pour moi, sa force. J'ai toujours cette question interne à moi-même de savoir à quel point le jeu pourrait fonctionner sur quelqu'un qui n'a pas fait les jeux originels, entre guillemets. Je pense que ça peut fonctionner. Je me suis dit que c'est peut-être une porte d'entrée qui fonctionnerait mieux que FF7 Remake, qui lui a l'air d'insister beaucoup plus sur le côté « je réécris quelque chose qui est déjà arrivé », où je trouve que celui-ci le fait moins quand même, dans le sens où il y a beaucoup moins ce côté
« on va tout changer ».
Quelque chose devait arriver, mais finalement ça n'arrive pas. Par contre, il y a des parties, et ça, je mini-spoil pour toi, Valérie, mais il y a des parties où tu joues Zack, mais ça dure 5 minutes à chaque fois. Je vois toujours pas l'intérêt pour le moment. On a 30 heures. Et il y a certains aspects où je me demande s'ils amènent pas des personnages genre les FF7, tu as les jeux FF7 annexes, Crisis Core et autres. Parce qu'il y a un personnage, quand il est apparu, j'étais là, je sais pas qui tu es. Le jeu fait semblant que tu es semi-important, mais je pense pas que tu le sois. Je vais ignorer pour le moment et on passera à autre chose. Mais du coup, ce côté-là, parfois, est un peu... Je sais pas. C'est pour ça que je suis là, je sais pas où ça va, parce que j'ai l'impression d'avoir passé des vacances avec mes amis pendant 15 heures, mais qu'à côté, il y a des trucs semi-importants qui se passent, mais je comprends pas très bien pourquoi, par moment. Donc, je suis vraiment curieux de voir où le jeu va mener sa fin.
Allez, ouais. Bah oui, et donc ça sera probablement pour une prochaine fois. T'as encore d'autres points à rajouter, toi, David, ou...
Non, je pense que j'ai fait un peu le tour de mes impressions mises à
jour. Moi, j'ai rien, hein, parce que bah, j'y ai pas beaucoup joué, parce que j'étais un peu en période de rush. Voilà. Donc ça va. Hein. Ça va revenir. Un jour, j'en parlerai quand je l'aurai fini, probablement, pour essayer de faire un petit récapitulatif de ce que j'en ai pensé. Mais il y a quand même un point très important que j'ai noté. Et je ne sais pas si toi, tu fais cette quête annexe du Queen's Blood, David.
Oui.
Oui, pour tu l'as fait oui. Ok. Et donc, il y a ce moment où, quand tu es dans le chapitre 4, sous Junon, tu vas débloquer une zone... qui a un camp allez, où il y a le fils de... Bref, d'une dame qui t'aide quand t'es sous Junon, bref, et où tu peux aller là-bas. Et alors du coup, tu peux battre des personnages et tu peux monter de rang dans ce jeu-là, donc dans le jeu de cartes du truc. Et là, j'avoue que j'ai été un peu bluffé parce que quand tu montes de rang, tu vois le créateur du jeu, enfin, il y a une cinématique avec le créateur du jeu et tout, qui est un peu énigmatique, et où tu te dis... Enfin, où moi, je me suis dit, la vache, c'est fou, c'est presque une histoire qui m'intéresse plus que de retrouver Sephiroth, quoi, parce que j'ai envie de savoir de quoi il parle, etc. Et donc, j'ai été happé par ce truc-là, et là, maintenant, j'attends qu'une seule chose, c'est de voir où ça va mener. Je ne sais pas si toi, tu en as déjà vu la fin.
J'ai eu une autre cinématique. Je n'ai pas eu la fin du tout. J'ai eu une autre cinématique et j'ai eu un peu plus une idée de
vers où ça
vers va. Quoi ça tend. Mais après, je pense qu'il me reste quand même... À mon avis, ça, c'est le genre de quête qui va se terminer à la fin.
D'accord. Okay. Mais ça avait l'air d'être ultra excitant comme ça. Je ne sais pas. Ça m'a...
Oui, c'est rigolo. Ça, c'est typiquement le genre de choses qui arrivent organiquement et qui
ouais, surprend. Oui, tout à fait.
Je trouve, et ça fonctionne très bien quand ça arrive. Et c'est presque dommage qu'il n'y en ait pas quelques-unes autres par-ci, par-là pour tapater. Mais après, moi, j'avoue que j'ai fait les mondes ouverts à moitié parce que, après le premier, avoir vu les autres qui suivaient la même démarche, donc peut-être qu'il y en a d'autres cachés. Mais donc, je trouve aussi que ça, c'est intriguant parce que là où j'en suis, j'en sais pas beaucoup plus que toi, mais je trouve ça toujours aussi intriguant aussi.
D'accord. Bon, ça me fait un peu peur qu'au chapitre 9, tu n'en saches pas beaucoup plus que moi. Mais bon, voilà. Et alors, qu'est-ce que j'ai écrit ? Ouais, mais donc... ouais, ça, j'ai écrit un truc stupide, mais j'ai fait une mission d'escorte du chien, là, justement, à ce moment-là. Et qu'est-ce que j'ai voulu dire ? Non, moi, j'ai juste écrit la musique, trois petits points, parce que c'est ce genre de moment où tu vois vraiment que le jeu ne se prend pas au sérieux, parce que la musique, je pense que c'est un truc où c'est un chien qui aboie, ou c'est une petite fille qui aboie comme un chien. Et j'étais genre, mais c'est fou à quel point ce jeu peut ne pas se prendre au sérieux. Et bref, ça m'a fait rire, mais j'avoue que en soi, escorter le chien n'était pas le truc le plus intéressant, même si, à son... Je veux dire, si on peut lui donner un truc, bah, en fait, les personnages parlent entre les différents combats et du coup, t'étoffes un peu les relations entre les différents personnages de ton groupe. Ce qui, pour pour cet épisode-ci, rentre absolument bien dans le thème, quoi. Donc voilà. Je trouve que ça, c'est pas si mal fait. Mais ça c'est parce que hier j'ai fait la partie à Junon j'avoue que j'ai été impressionné de nouveau de la façon dont ils gèrent les thèmes musicaux parce qu'en fait je me rappelais pas, je sais pas comment dire ça, je pensais que tous les thèmes musicaux principaux avaient été utilisés dans le remake là en arrivant à Junon il y avait cet arrangement où j'étais là genre ah mince, c'est vrai, il y avait aussi cette chanson incroyable et la façon dont ils ont fait l'arrangement était absolument fantastique, donc bref, ça m'a choqué et donc je voulais remarquer ce point mais donc j'ai rien à dire hein, parce qu'en fait c'est fini mais
non mais les musiques sont super belles hein. Ça il y a pas de
ouais c'est ça. Et bon, désolé pour ceux qui ont écouté le précédent podcast, parce que j'avoue que j'ai craqué, j'ai mis la première musique où on récupère les chocobos, et, parce que je trouvais ça très drôle, mais oui, non. Sinon, en général, elles sont quand même... c'est très impressionnant le travail qui a été fait dessus. En fait, plus généralement, c'est impressionnant le travail qui a été fait sur l'œuvre originale, parce que c'est à la fois ça change, mais en même temps ça garde tout. Et donc c'est, ouais, c'est un travail absolument fantastique qu'ils ont fait. Bref, voilà. Après, il y a des trucs qui sont chiants, il y a des trucs nuls, je veux dire, comme les mini-jeux avec les mogs où il faut les rentrer dans leur parc, des trucs comme ça, c'est horrible, mais voilà, il y a des trucs bien.
Tout à fait. Non, ça reste un excellent jeu, ça c'est sûr et certain.
Ouais. C'est exactement. Mais donc voilà. En tout cas, moi j'ai rien d'autre à en dire et je suis désolé de pas l'avoir fini. Mais ça viendra. Il sera fini avant 2025, ça c'est sûr.
Ouais.
Maintenant, je vais essayer de faire un truc terrible. Je vais faire un appel à Hector pour voir s'il est revenu des toilettes.
Je suis là. Mais j'avais signalé. Voilà. Ne soyez pas mauvaise langue. J'avais été.
Ah oui, I'm back. J'avais dit, ok. Très bien, très bien. En fait, tu as dit I'm back, j'avais pas vu.
Il m'a répondu, ok, I'm back. Et pas, je suis parti aux toilettes. Je me suis dit, bon, j'espère qu'il n'y aura pas de confusion. Mais donc, il y a eu une confusion.
Il y a eu mais, confusion. Voilà, donc,
ma
donc,
faute voilà. Quand même. Pas,
non, pas du tout. Voilà. Non, tu as fait ça très bien. Bon, bref. Ne nous éternisons pas sur des problèmes de toilettes.
Exact.
toi, Hector, désolé pour ce long, non, ce long moment.
C'était très intéressant.
Qu'est-ce qu'on fait, messieurs ? Là, je vous laisse le choix. Est-ce que vous avez de la recommandation culturelle à faire, c'est-à-dire du hors-jeu, ou est-ce que vous n'avez pas de hors-jeu ? Non. Alors, je propose... Enfin, non. Moi, j'ai quand même un truc à dire, en fait.
Vas-y.
Mais c'est juste pour, parce que j'avais envie de vous dire ça. Donc, avec ma femme, on essaye de choisir toujours un livre qu'on va lire tous les deux en commun. Mmh. Et elle a fait un excellent choix, hein, qui est un livre de Gabriel García Márquez.
Bien sûr.
Que vous connaissez probablement pour beaucoup de choses. Et ici, elle a choisi, non pas 100 ans de solitude, mais elle a choisi L'amour au temps du choléra. Mmh. Voilà, donc livre que moi j'avais jamais lu, le seul que j'avais lu de Gabriel García Márquez, c'est Chronique d'une mort annoncée. En fait, il s'avère que voilà, c'est celui-là et que j'avais beaucoup aimé. Et alors j'ai tenté de lire L'amour au temps du choléra et en fait voilà, je suis pas quelqu'un d'assez, je sais pas, instruit ou bref, ça n'a pas fonctionné. C'était trop dur à lire pour moi. En fait, il y a pas de vraiment de chapitres, c'est juste plein de choses qui se déversent comme ça. Et autant il y a des moments où je me dis « Ouf, cette phrase est incroyable », etc. Mais il y a plein de moments où je m'ennuyais. Et donc voilà, j'ai dû déclarer forfait. Et alors, j'ai déclaré forfait et je me suis rabattu sur... Et donc, c'est ça. Ça, c'est le vrai hors-jeu. Sur Cloud Atlas David Mitchell.
Je vois, je disais David Mitchell, mais effectivement David Mitchell, effectivement. Mais...
Ah oui, oui je ne sais pas comment il faut le dire, donc voilà. Et là par contre, voilà, ça j'ai adoré, et donc je vous recommanderais ceci, parce que c'est une histoire qui va se dérouler sur, je ne sais pas, plus ou moins 500 ans, et où on va suivre, en fait, c'est cinq personnages, je crois, au fur et à mesure. Et puis, on va les suivre en marche arrière. Et c'est incroyable, vraiment incroyable. C'est super drôle. Enfin, c'est à la fois drôle et touchant. Enfin, bref, c'est très chouette, très chouette bouquin. Donc, voilà, ça, c'est ma... Petite recommandation.
Vous avez vu le film Valérian ? Parce que c'est vrai que c'est un
littéral. Pas du tout. Non, il est sorti quand
je ne sais pas. 2015. Je n'ai aucune idée, mais je dis ça sans.
Ah oui, ok, je sais pas. Non, non, j'ai pas vu le film, pardon.
2012, apparemment.
Mais voilà. Et... Ouf, 2012, mon Dieu. J'aurais pu le voir, en plus, parce que c'était une époque où, où j'avais encore une vie. Mais donc, donc voilà.
C'est un long livre ou c'est...
Ouais, c'est quand même assez velu. Hein. C'était combien? 500 pages?
Ok.
En tout cas, la, l'édition que moi j'avais était de 500 pages, je crois.
Ok.
Bon, je...
Non, si, si, c'est comme...
Je ne peux pas la retrouver.
Mais c'est intéressant, ça.
Elle était... Non, no, c'était 400 pages. 400 pages, pardon. Voilà.
Ok.
Mais c'est vraiment, vraiment très chouette et ce, ça se lit bien. C'est... le début est un peu comment dirais-je, c'est, on se demande un peu ce qui va se passer. Et donc moi j'ai eu du mal un peu avec le premier personnage, et puis il y a eu le deuxième personnage, et le deuxième personnage là j'étais à fond dedans quoi. Donc voilà, c'est... parce que le deuxième personnage il se retrouve à Bruges,
ah, chouette.
Enfin bref, il se passe des choses absolument fantastiques, c'est c'est génial. Et donc voilà, mais je pense que tout est dit, messieurs.
Génial. Merci,
je pense aussi.
Merci, David.
Eh bien, merci, chères auditrices et auditeurs, de nous avoir écoutés. Nous avons donc la chaîne YouTube, Tout est dit, où vous pouvez trouver un peu plus de contenu. Et j'espère pouvoir promettre qu'il y aura encore même plus d'autres types de contenus bientôt. Donc voilà, n'hésitez pas à, vous, à nous suivre sur la chaîne YouTube. Nous avons aussi le X, pouf, @spotc, tout est dit. Mais voilà, qui utilise encore Twitter, je ne sais pas. C'est une bonne question. Ouais. On a l'adresse mail, podcasttoutestdit@gmail.com. Et on a surtout le jeu du mois suivant. Et donc, comme on l'a dit, il n'y a rien à jouer pour l'instant. En tout cas, rien qui nous intéresse. Et donc, on a été pioché dans un jeu de l'année passée et on a pris Chains of Senar pour changer un peu de style. Et donc, voilà, ça va être très intéressant et on pourra en parler bientôt, mais pas tout de suite. Allez, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien, jouez bien. Ciao, ciao.
Ciao à tous.